L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Le 31 octobre 2008, une personne qui se présente sous le nom de Satoshi Nakamoto publie un petit livre blanc, un white paper, comme on dit en anglais. Son nom, Bitcoin, un système de monnaie électronique en pair à pair. C'est le début énigmatique, quasi fictionnel, d'une épopée que nous avons choisi de vous raconter dans l'atelier des médias. Celle de la monnaie numérique Bitcoin et de la blockchain, le système logiciel et technologique qui sous-tend Bitcoin.
C'est une technologie qui vient de nulle part. On ne sait pas très bien d'où elle sort, qui l'a inventée. Le white paper de Bitcoin a été signé par Satoshi Nakamoto, ça c'est sûr. Il a participé, il ou ces personnes ont participé à des forums de discussion au début, jusqu'à à peu près 2010-2011, pour expliquer leur philosophie, pour voilà. Et puis d'un jour, ça a disparu. Cette personne a disparu. Ce groupement de personnes a disparu. Et depuis, il n'y a absolument aucune trace, en fait, de Satoshi Nakamoto. Alors il y a une personne de temps en temps qui se déclare être Satoshi Nakamoto, mais aucune n'a pu apporter de preuves infaillibles de son identité réelle. C'est toute une mystique, en fait, qui s'est développée autour de ce personnage et autour de son invention, et c'est assez amusant de voir comme maintenant cette invention est en train de sortir de ce contrôle, de partir sur autre chose, quand le créateur a perdu un peu la maîtrise de sa créature.
Bienvenue dans l'atelier des médias. Depuis une semaine, donc, nous tentons d'expliquer ce qu'est la blockchain ou la chaîne de blocs. Rappel de l'épisode précédent.
Comment fonctionne la blockchain? En fait, un peu comme une recette de cuisine. Pour fabriquer et faire fonctionner une blockchain, il faut un registre, une cryptographie avec des clés pour sécuriser les échanges, un algorithme pour valider les transactions et un réseau pair à pair, le fameux peer-to-peer, le réseau distribué et partagé, pour que le tout fonctionne. À partir de là, vous y ajoutez des participants, et voilà, vous avez les ingrédients dont vous avez besoin pour construire une blockchain. D'accord ?
Si vous n'étiez pas des nôtres il y a une semaine, ce n'est pas très grave. Nous avions alors posé qu'il est presque impossible d'expliquer à un public large et varié ce qu'est la blockchain. Disons que c'est le système qui a permis à la première monnaie numérique réellement décentralisée, Bitcoin, d'exister et d'être échangée sans avoir besoin d'un tiers de confiance, c'est-à-dire d'une banque par exemple, pour vérifier qu'il n'y a pas d'abus ou de double dépense. La blockchain repose sur les technologies du pair à pair et de la cryptographie. Le pair à pair sert à partager le registre et le sécuriser en multipliant les sources. La cryptographie permet de protéger les utilisateurs avec des clés impossibles à casser. Il existe aujourd'hui des centaines de monnaies numériques reposant sur des blockchains. Il existe aussi des usages non monétaires de cette technologie en devenir. Les initiatives, les startups, les projets, les consortiums qui misent sur ce nouvel Eldorado se comptent par milliers. Il existe même un podcast hebdomadaire anglophone très populaire qui ne traite que de blockchain. Il est co-animé par Sébastien Couture, son nom Epicenter. Épicentre.
Il n'y a pas vraiment de signification derrière le nom, mais on essaie d'être un peu le centre de discussion autour des technologies distribuées, des technologies décentralisées de type blockchain. Et donc à chaque semaine, on interview quelqu'un dans l'écosystème autour d'un projet, autour de nouvelles idées, de nouveaux systèmes. Donc ça peut être des entrepreneurs, des développeurs, des économistes, on a aussi parfois des avocats, et ça fait 3 ans qu'on fait ça, donc on a environ 200 épisodes à notre actif.
This is Epicenter, episode 213 with guest Tim Swanson. Hi, welcome to Epicenter, the show which talks about the technologies, projects and startups driving decentralization and the global blockchain revolution. My name is Sébastien Couture.
And my name is Brian Fabian Crane.
Si j'ai choisi de consacrer 2 émissions à la blockchain, c'est parce qu'il ne se passe plus un jour sans que je ne voie dans mes fils d'actualité une information importante sur ce sujet. Levée de fonds, création de sociétés, aménagement de la loi, etc., etc. J'ose même faire le pari que vous aussi, bientôt, vous allez remarquer, si ce n'est déjà fait, que ce terme revient de plus en plus autour de vous. Il est donc essentiel de mieux comprendre ce qu'il signifie, ce qu'il implique, ce qu'il véhicule en termes de réalité, mais aussi de rêve.
C'est très difficile d'avoir des certitudes là aujourd'hui sur ce domaine. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on n'est pas au bout de nos surprises en termes de fonctionnalités qui vont arriver. Il y a énormément de gens vraiment brillants qui se passionnent pour ces technologies, et donc qui arrive à trouver des solutions à des problèmes qui paraissaient impossibles à résoudre il y a encore quelques années. Donc ma certitude, c'est qu'aujourd'hui, ça va continuer à évoluer dans un sens très positif. Et je pense qu'on est vraiment à l'aube de quelque chose de très intéressant. Mais maintenant, c'est tellement fou déjà de voir le chemin qui a été parcouru sur ces 8 dernières années, ces 5 dernières années, même ces 2 dernières années, que tout est possible, quoi, très franchement.
C'est certain que le chemin parcouru est déjà impressionnant. Présenté comme une révolution libertarienne, anti-système, quasi-anarchiste, Bitcoin et son principe de blockchain sont devenus une préoccupation des banquiers, des assureurs, des législateurs et de toutes sortes d'institutions. La personne que vous venez d'entendre s'appelle Adrien Lafuma. Il a découvert la blockchain par le Bitcoin. Quand il me donne rendez-vous pour discuter avec moi, c'est au pied d'un des immeubles franciliens d'une grande banque française. Ce n'est pas un hasard, Adrien a été embauché par cette société pour une mission de conseil sur la blockchain.
Moi, c'est vrai que j'étais assez surpris au départ, ça je te le cache pas. Et après, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des gens en interne dans ces banques qui se posaient des vraies questions de fond sur leur métier et comment est-ce qu'ils allaient être impactés par ce genre de techno. Parce que la grosse, une des promesses de Bitcoin, quelque part dans un état d'esprit libertarien, c'était de se passer d'intermédiaire pour faire des opérations financières. Donc là, ça impactait directement les banques à ce niveau-là. Ces gens-là se sont dit, si on est impacté un jour, comment est-ce qu'on va être impacté ? Il faut qu'on le voit venir le plus tôt possible pour pouvoir s'adapter. Donc il y a un état d'esprit assez sain en fait dans ce genre de cas. Donc ils se sont dit, on va étudier la techno, on va étudier ce qu'on peut faire avec et voir s'il y a vraiment quelque chose qui peut permettre d'améliorer nos métiers, de proposer une meilleure valeur ajoutée à nos clients sur certains produits qu'on propose, certains services qu'on rend. Et c'est dans cette démarche-là en fait qu'ils nous ont approchés en nous disant, venez nous montrer un peu comment ça marche et on va réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire avec pour nos métiers de banquier.
Et alors du coup, est-ce que c'est d'une manière générale, t'es pas obligé de parler de ce cas particulier, mais d'une manière générale, c'est intéressant pour une banque privée ou pour une banque publique comme une institution comme la Banque de France qui vous a aussi contacté pour travailler avec elle. C'est intéressant ce genre d'outil au-delà de la compréhension ou de l'anticipation de problèmes liés à leur évolution.
Oui, on voit qu'il y a eu plusieurs... on a réfléchi à plusieurs cas d'application, à plusieurs champs d'application avec eux, notamment sur ce qu'est les problématiques de réconciliation qui sont un gros problème en fait aujourd'hui dans le milieu bancaire et dont on pourrait s'affranchir en utilisant des techno blockchain. Donc en fait en ayant une infrastructure blockchain qui détiendrait une vérité unique sur laquelle plein d'acteurs pourraient se brancher et à ce moment-là éviter d'avoir des différences dans les registres qui tiennent chacun indépendamment de leur côté. Donc c'est un cas parmi d'autres, après on a étudié le vote, on a étudié pas mal de choses comme ça, et on s'aperçoit que oui, il semblerait qu'il y ait des cas où on va pouvoir appliquer des technologies blockchain dans le cadre de, alors pas forcément d'une grande banque, mais plutôt d'un consortium, d'alliance en fait de banques. Ça a vraiment de l'intérêt si on l'utilise à plusieurs, à grande échelle. Donc on a eu, au-delà de la réflexion, on a fait ce qu'on appelle des proof of concept, pour démontrer un peu les intérêts qu'on aurait à utiliser ces technos. Et on a quelques projets qui sortent de l'état proof of concept pour se diriger plus vers des pilotes, voire de la production à terme.
J'imagine, pardonnez mon insistance, que ce que vient d'expliquer Adrien n'est pas clair pour la plupart d'entre vous. Quel rapport entre un registre monétaire partagé et sécurisé par des milliers d'utilisateurs et des institutions bancaires dans leurs relations quotidiennes? Un élément de réponse est le caractère totalement exploratoire des solutions que pourrait apporter cette technologie. Un caractère tellement exploratoire que pour une bonne partie de la communauté blockchain, ce type de projet de blockchain privé est une hérésie. Blockchain privé par opposition au blockchain public qui implique plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs que sont par exemple Bitcoin ou la légèrement moins célèbre Ethereum.
Je suis d'accord, c'est toujours un pari. Maintenant, chaque jour qui passe où il y a des blockchains publics qui continue à tourner sans interruption, on voit que c'est une victoire en fait de plus, c'est une sécurité en plus. Donc empiriquement, on a la preuve que Bitcoin, ça marche bien, qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui, en tout cas, de casser le système. Et sur beaucoup de techno comme ça, on a énormément d'innovations. Alors même s'il y a encore des soucis à régler, etc., c'est vraiment des produits qui sont en évolution constante et dont les principaux atouts et les principaux cas d'utilisation sont encore à découvrir. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un énorme pari, mais les enjeux sont à la hauteur en fait, des risques qu'on prend aujourd'hui, à mon avis.
L'atelier des médias. à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Alors, je m'appelle Romain Oufel, je suis le cofondateur de Belem, qui est une start-up qui explore des applications concrètes de la technologie blockchain pour explorer les applications de cette techno-là, pas forcément dans le domaine de la monnaie et du transfert d'argent, mais aussi dans d'autres domaines assez concrets.
Une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire que c'est une technologie dont on annonce le côté révolutionnaire, etc., qui est encore difficile à comprendre. D'ailleurs, je ne sais même pas si les gens finiront par la comprendre ou si finalement ils l'utiliseront sans le savoir. Mais quand on décide, comme vous, de lancer une entreprise dans ce domaine, comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu en avance ou est-ce qu'au contraire vous êtes extrêmement sollicité et ça marche très très bien et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de décoller? Comment ça se passe au quotidien quand on décide d'entreprendre dans ce domaine?
Déjà, effectivement, on a le sentiment d'être... c'est une technologie qui est jeune et qui ne sera pas mature avant... 3, 5, 10 ans, c'est encore dur à dire. Je pense qu'effectivement, cette technologie-là, on ne la verra pas dans notre utilisation de tous les jours. C'est-à-dire, c'est le protocole sous-jacent, c'est la première couche de protocole qui va permettre de faire marcher des applications dans la vie de tous les jours.
Ce sera aussi important, par exemple, donc, quand tu dis on ne la verra pas, c'est l'utilisateur qui ne s'en rendra pas compte, de même que quand il utilise Java ou un langage informatique, il s'en rend souvent plus compte.
Exactement, Internet, bon, il y a un protocole TCP/IP, HTTP derrière. Bon, nous, ça ne nous intéresse pas quand on est juste sur Google et on va voir les sites qui nous intéressent. Et concrètement, ce qu'il y a derrière, on ne le sait pas. Je pense que ça sera un peu pareil. Maintenant, sur la réaction, par exemple, du monde de l'entreprise ou même du législateur, nous, on a été très agréablement surpris dans le sens où on voit une vraie volonté de la part des entreprises et de toute taille, hein, c'est-à-dire ça peut être des grands groupes, des PME, des professions libérales, d'essayer de comprendre un peu ce qu'est la blockchain et ce qu'elle peut apporter. Alors parfois avec des attentes un peu exagérées par rapport à ce que peut réellement faire une blockchain. Donc il y a un travail qui est important, qui est celui d'évangélisation et aussi de bien faire comprendre que la blockchain ne pourra pas tout faire et qu'elle ne va pas non plus résoudre tous les problèmes du tout, qu'on aura toujours besoin d'humains au final, qu'on ne va pas supprimer tous les tiers de confiance, qu'on aura toujours aussi besoin d'un tiers de confiance, même si son rôle sera peut-être plus limité. Donc il y a vraiment l'idée de bien savoir en fait quel cas d'usage est approprié à l'utilisation de la blockchain, parce que dans beaucoup de cas, on n'en a pas du tout besoin. Enfin, en fait, il peut arriver souvent qu'on essaie de résoudre un problème avec une blockchain, alors qu'il y a un problème, ok, mais on peut le résoudre autrement, quoi. Ce qui est sûr, c'est que la blockchain, elle prend tout son sens quand des partenaires ne se font pas confiance. Elle permet de créer de la confiance, en fait. Et dans ce cadre-là, par exemple, dans le cadre d'un échange monétaire, comme c'est le cas avec le Bitcoin, ou dans le cadre d'un échange de titres de propriété ou de titres financiers entre gens qui ne se font pas confiance mais ont besoin de prouver l'authenticité d'un échange et le fait qu'il ait lieu une seule fois, à ce moment-là, c'est très intéressant. Maintenant, quand on veut utiliser la blockchain entre partenaires qui se font déjà confiance, ça a moins d'intérêt et au fond, on se rapproche plus de bases de données partagées, quoi, d'une sorte de grand Google Sheet qu'on mettrait en commun. Et au final, on a moins besoin d'utiliser cette technologie blockchain.
Romain Roufael est la première personne que j'ai rencontrée quand j'ai commencé mon exploration de l'univers blockchain. C'était il y a plusieurs mois. Lui et son associé, comme Jean Jarry, m'ont accueilli dans un petit espace en rez-de-chaussée du 10e arrondissement de Paris. Comme pour la plupart de mes interlocuteurs, je savais qu'il travaillait dans l'univers de la blockchain, mais je n'étais pas réellement parvenu à comprendre ce qu'il fabriquait exactement dans cet écosystème. En l'occurrence, ce que faisait Belem, leur société, avec la technologie blockchain.
Donc on a commencé par l'appliquer dans le domaine du vote. Ça a été notre première expérimentation. Un parti politique nous a fait confiance pour organiser ces élections.
Tu peux donner des détails ou c'est confiant?
Ouais, non, bien sûr. Donc c'est un parti qui s'appelle Nous Citoyens. Dans le cadre de leurs élections internes, ils voulaient essayer d'apporter plus de sens, plus de démocratie à leurs consultations et à leurs élections internes. En fait, ce que peut apporter la blockchain dans ce cadre-là, c'est qu'elle peut permettre, dans le cadre du vote en ligne, elle peut permettre d'auditer les votes. C'est-à-dire qu'elle peut permettre à chaque individu de s'assurer que son vote a bien été pris en compte, de s'assurer qu'il a bien été enregistré dans une blockchain, de pouvoir y avoir accès et de permettre à chaque individu de pouvoir recompter les votes de façon auditable et transparente. Donc là aussi, on a une vraie rupture par rapport au vote en ligne tel qu'il se faisait traditionnellement. Par exemple, on l'a vu aux États-Unis dans le cadre de l'élection entre George Bush et Al Gore, il y a eu pas mal de soucis avec le vote. Dans le cadre des élections internes des partis, que ce soit de droite ou de gauche, ça a été parfois assez opaque. D'ailleurs, c'était Joseph Staline lui-même qui disait « Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte le vote ». Et donc, c'est en partant de ce constat-là qu'on a eu envie d'apporter de l'auditabilité dans le vote. Donc très concrètement, en fait, pour ces élections internes, il y avait 15 000 votants. Chaque votant recevait un lien, enfin un email avec un lien qui lui permettait d'aller voter. Une fois qu'il votait, son vote était enregistré dans une blockchain. Et à l'issue du vote, il pouvait retrouver son vote.
Son vote à lui, pas celui des autres. C'est-à-dire que ça respectait l'anonymat des autres ou la confidentialité, mais pour lui, il pouvait vérifier que ça avait été comptabilisé.
Voilà, exactement. Bon, il y a d'autres applications de la blockchain. Le vote, c'en était une. Il y en a d'autres. Une qui ressort souvent, qui est l'authentification. C'est-à-dire utiliser la blockchain pour prouver une antériorité à la façon en fait d'une enveloppe solo, comme ça existe. C'est-à-dire, prenons un exemple, j'écris un livre qui me plaît bien, j'écris Le Rouge et le Noir, par exemple, je trouve ça bien, je me dis que ça a de la valeur, je veux pouvoir prouver que j'en ai l'antériorité, que je l'ai écrite. Ce que je peux faire, c'est utiliser la blockchain pour mettre une empreinte digitale, enfin utiliser une blockchain pour mettre une empreinte digitale de mon œuvre sur une pièce de monnaie, sur un bitcoin, par exemple, qui m'appartient. Et comme ça, plus tard, si un dénommé Stendhal prétend qu'il a écrit Le Rouge et le Noir, moi, je peux revenir vers lui et lui dire « Non, 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 attends, je suis détenteur d'un bitcoin sur lequel il y a l'empreinte digitale du Rouge et le Noir. J'ai donc bien l'antériorité de cette œuvre et j'en suis donc l'auteur. » Donc, pour l'authentification, en fait, c'est assez intéressant parce que on utilise ici une propriété de la blockchain qui est le fait qu'elle est décentralisée, c'est-à-dire que le registre comptable qui enregistre toutes les transactions se trouve dans des milliers de serveurs répartis à travers le monde. Donc concrètement, on ne peut pas censurer ce registre central. Il est incorruptible. Il n'y a qu'une seule version de la vérité. Et ça, c'est important dans la blockchain. Donc cette authentification-là, cette propriété de la blockchain, elle peut s'utiliser dans de l'authentification, par exemple, d'œuvres littéraires, artistiques. Elle peut aussi s'utiliser pour des cadastres immobiliers. Et ça, c'est une utilisation qui est assez pertinente et intéressante, notamment dans des pays dans lesquels le teneur de registre ou teneur de cadastre, soit les infrastructures n'existent pas, soit il peut être potentiellement corruptible. En utilisant un cadastre basé sur la blockchain, on peut prouver de la propriété immobilière. Il y a des expérimentations en cours dans de plus en plus de pays, le Ghana par exemple, la Suède, ou encore récemment le Brésil. Et on peut se passer d'un tiers de confiance centralisé, qui est un cadastre, pour le remplacer par une confiance décentralisée. Nous, on est fondamentalement et intimement convaincus que c'est une technologie qui est révolutionnaire, qui a été révolutionnaire et qui va avoir un impact important sur notre société, dans des domaines politiques, sociétaux, économiques. Pour moi, le Bitcoin, c'est un peu la monnaie d'Internet. Donc, Internet fonctionne très bien dans les échanges. Il manquait une monnaie pour permettre de faire fonctionner Internet. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Ensuite, je pense qu'en allant vers plus de décentralisation, c'est-à-dire plus de décentralisation à la fois politique, et là, par exemple, dans le domaine du vote, on voit qu'on peut arriver à faire des consultations de façon rapide, fiable et beaucoup plus simple, sans passer par un tiers de confiance. Donc ça, c'est par exemple un phénomène qui est intéressant. Donc, je pense que dans le domaine, par exemple, des plateformes, on pourrait imaginer une économie de la plateforme décentralisée. Bon, on a parlé, même si on n'y est pas encore aujourd'hui, d'un Airbnb sans Airbnb, d'un Uber sans Uber. Dans le domaine de la culture, pour permettre de remettre l'artiste au centre, permettre de le valoriser et de lui permettre de toucher les fruits de sa création artistique directement sans passer par tout un tas d'intermédiaires. Et nous, il y a un domaine qui nous tient à cœur, c'est aussi celui de la donnée. Et on peut voir aujourd'hui qu'on utilise des services qui nous paraissent gratuits, mais dans lesquels en réalité, des grands opérateurs utilisent nos données pour les revendre commercialement. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de permettre à chaque personne de reprendre le contrôle de sa donnée, de pouvoir en être maître et de pouvoir la vendre, de pouvoir la commercialiser à qui l'entend ou pas, de pouvoir créer un marché décentralisé de la donnée. C'est aussi des choses qui auront pour nous des impacts profonds.
Courte pause dans l'atelier des médias, restez avec nous. Atelier des médias, nous explorons depuis une semaine l'univers de la blockchain, cette technologie pair à pair qui permet d'insuffler de la confiance sans avoir besoin d'un tiers dans l'Internet. Une technologie qui a donné naissance à la monnaie Bitcoin, mais aussi à d'autres monnaies ou blockchain moins connues du grand public comme Ethereum. J'ai commencé à explorer ce sujet il y a quelques mois. J'imaginais rencontrer surtout des start-upeurs coincés dans des garages. Il en existe beaucoup, mais assez rapidement, je me suis rendu compte que l'écosystème blockchain était bien plus cossu que je ne me le figurais. Il y avait assurément de l'argent qui circulait dans cet univers originellement anti-système.
C'est quand même quelque chose qui a été créé en réaction à la crise de 2008 comme étant on reprend le contrôle, les banques font n'importe quoi avec notre argent et finalement les gens se retrouvent à la rue alors qu'ils n'avaient absolument aucun contrôle et aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc c'est injuste, de façon, c'est profondément injuste, donc il faut que les gens reprennent le contrôle sur leur indépendance, enfin leur finance de façon générale. Et donc c'est derrière tout un idéal très libertarien en fait, hein, on n'a pas besoin d'État, on gère nous-mêmes notre argent, etc. Et derrière cet idéal, évidemment, il y a tout un aspect très disruptif et très menaçant pour les États. Et donc, aujourd'hui, on a un peu un mouvement un peu paradoxal de réappropriation de la technologie par les grands acteurs, par les États, par les banques, qui peut paraître un peu folle, mais finalement, ça montre que la technologie est complètement neutre en fait, et que à partir du moment où on crée un cas d'usage qui peut être utile d'une façon ou d'une autre à des acteurs complètement différents, finalement la raison pour laquelle on a créé cette technologie est un peu indifférente. Elle sera utilisée de toutes les façons dont on peut l'utiliser, même si c'est complètement contraire à l'idéal de départ.
La personne que vous venez d'entendre s'appelle Simon Polerot. Il est avocat de formation. C'est d'ailleurs dans un grand cabinet au cœur de Paris qu'il m'a donné rendez-vous pour cet entretien. Simon est passionné de la blockchain Ethereum, à laquelle il a choisi de consacrer désormais son activité professionnelle en tant qu'entrepreneur.
Je suis à l'origine un avocat spécialisé en droit des affaires et fiscalité, mais je m'intéresse depuis toujours aux nouvelles technologies et depuis à peu près un an et demi maintenant à la technologie blockchain en particulier. Donc je connaissais le Bitcoin de réputation, j'avais un petit peu exploré le sujet, je pense en 2012, alors j'ai plus exactement les dates en tête, mais à l'époque j'avais pas forcément vu l'intérêt au-delà de simplement une espèce d'investissement très risqué, un peu intéressant dans la façon technique d'avoir de la valeur, mais j'avais pas exploré le sujet plus que ça. Et je suis un peu retombé dessus par hasard. À l'origine, vraiment, c'était uniquement, je me suis dit, je cherchais un moyen de diversifier personnellement mes investissements, et j'ai un peu réexploré ce que c'était la monnaie virtuelle. Et là, je suis tombé sur le projet Ethereum, qui m'a vraiment passionné, puisque c'est la blockchain, donc c'est-à-dire la possibilité de transmettre de la valeur au niveau numérique, donc créer de la valeur numérique et transmettre de la valeur numérique, mais avec tout un aspect programmation au-dessus, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des programmes, des instructions sur des transferts de valeur automatisés et dématérialisés. Donc j'ai vu l'intérêt pour l'industrie de façon générale, enfin pour les cas d'usage dans la vie courante de beaucoup de sociétés, même des particuliers, mais j'ai aussi vu évidemment l'intérêt juridique derrière, puisque le transfert de valeur automatisé, ça implique énormément de nouvelles problématiques juridiques pour les entreprises, mais voilà, pour tout le monde en fait, puisqu'à partir du moment où on peut automatiser des transferts, les programmer à l'avance et les exécuter de façon automatique, ça change un peu le rapport au transfert de valeur, qui est plus un acte positif, un acte volontaire, mais qui peut être un acte auquel on a consenti par avance et sur lequel on peut plus avoir d'impact par la suite. Donc ça change un peu le rapport de force et ça change aussi la façon dont juridiquement ça peut être encadré. Voilà. Et donc évidemment en tant qu'avocat, tout de suite je me suis dit qu'il fallait que j'explore un petit peu plus le sujet. À titre personnel, je me suis vraiment passionné pour l'aspect technique et l'aspect problématique. Et donc j'ai créé le site Ethereum France. C'était en février 2015. Donc c'est un site d'information généraliste sur la technologie blockchain Ethereum, qui a pour but de faire un peu de pédagogie en fait, d'explication sur ce qu'est la technologie Ethereum en français, pour faire découvrir la technologie au plus grand nombre, parce que je trouve que c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de ressources vraiment en français, et je trouve que c'est important que que beaucoup de gens comprennent un peu ce que c'est et ce que ça peut avoir comme impact, parce que ça va avoir beaucoup d'impact sur nos vies dans le futur. La blockchain, les actifs numériques et ce qu'on appelle les smart contracts, donc les exécutions automatiques de transfert de valeur sur blockchain au niveau juridique.
RFI.
Alors le métier d'avocat en particulier, il va être transformé de deux façons. La première chose, c'est que beaucoup de rapports d'obligations, ce qu'on appelle les obligations, c'est-à-dire des rapports entre des individus ou des entreprises. Alors une obligation, c'est simplement je m'engage à réaliser quelque chose. Ou deux personnes s'engagent entre elles à réaliser quelque chose. Ou alors encore, je cause un dommage à quelqu'un. Voilà, je blesse quelqu'un. Ça entraîne un rapport d'obligation. Parce que si je cause un dommage à quelqu'un, je dois réparer le dommage. C'est une obligation générale du droit. Et si je m'engage avec quelqu'un à lui fournir quelque chose, ben je dois lui fournir. Voilà, je me suis engagé. Donc ça s'appelle une obligation de façon générale. Donc,
et inversement, la partie à laquelle on va fournir l'objet, le gaz, le pétrole, etc., s'engage à payer en contrepartie.
Voilà. Oui, voilà, c'est ça. En fait, tous les rapports d'engagement, ça s'appelle les obligations, en droit français en tout cas. Et tous ces rapports d'obligation vont être transformés d'une façon ou d'une autre par l'arrivée de la possibilité d'automatiser les transferts, d'automatiser les engagements, et de les programmer, entre guillemets, et de ne plus pouvoir ensuite modifier cet engagement. C'est ce que permettent les smart contracts, ce qu'on appelle les smart contracts, c'est-à-dire de programmer des instructions, de programmer des transferts d'actifs selon des conditions définies. Donc tout ça se définit à l'avance, est envoyé sur une blockchain, et après vous ne pouvez plus changer, vous êtes obligé de l'exécuter tel que vous l'avez conçu à l'origine. Ça, c'est vraiment un changement énorme. Et donc la pratique du droit telle qu'elle se fait aujourd'hui va être forcément modifiée. Il va falloir que les avocats comprennent ce que c'est un smart contract, puissent les lire éventuellement, ou au moins puissent aider à la conception des smart contracts, peut-être en travaillant avec des codeurs, peut-être en étant eux-mêmes codeurs. Enfin, en tout cas, là-dessus, le métier d'avocat va changer énormément.
Pourquoi ? Parce que, bon, on se dit, au lieu de faire un contrat et de le garder chez un notaire ou chez un avocat ou dans un coffre de banque, le fait d'avoir ce contrat écrit en code sur une blockchain, qu'est-ce que ça change concrètement ?
Alors, déjà peut-être simplement dire très rapidement que smart contract et contrat, c'est pas vraiment la même chose, parce que smart contract, ça veut juste dire code informatique. Donc on peut faire plein de choses avec du code informatique. On peut notamment faire des smart contracts, des contrats, c'est-à-dire programmer des contrats, des engagements. On peut faire des choses beaucoup plus complexes, mais je vais pas rentrer dans ce niveau de détail aujourd'hui. La différence, c'est que aujourd'hui, si vous faites un contrat avec quelqu'un, vous contractez avec lui, vous lui dites, en échange de X, je vous donne Y, voilà. Donc on donne deux engagements réciproques. Donc on s'engage chacun à fournir quelque chose. Si au moment de l'exécution du contrat, c'est-à-dire deux mois après, je dis bah non, finalement j'ai changé d'avis, je veux pas vous donner X, donc on annule le contrat, c'est bon. Vous pouvez essayer de me forcer à exécuter le contrat, mais ça va être très compliqué, parce que si je veux pas, par exemple si c'est une prestation, si je veux pas faire la prestation, vous allez pas pouvoir me forcer à faire la prestation, c'est pas possible. Si vous avez programmé tout ça sur un smart contract, en fait les conditions du contrat sont déjà dans le smart contract. On a mis en séquestre des sommes qui seront débloquées uniquement lorsque la prestation sera réalisée. Et donc, je suis un peu obligé, d'une façon ou d'une autre, de réaliser cette prestation. Sinon, j'ai perdu mes sommes en séquestre, ou les sommes en séquestre, d'une façon ou d'une autre, sont perdues. Donc, ça change un peu le rapport d'obligation, ça change la façon de contracter. Donc, on ne s'engage pas de la même façon quand on sait qu'on va être obligé d'exécuter de toute façon les termes du contrat, quelle que soit notre envie du moment dans deux mois après. Et ça change aussi la façon dont les contrats sont conçus. Et donc, c'est là que les avocats devront probablement changer un petit peu la façon d'appréhender les obligations et la façon de conseiller leur clients par rapport à ça. Alors ça ne veut pas dire que tous les rapports d'obligation vont passer par des smart contracts, bien sûr, c'est pas du tout l'objectif, mais pour certains types de contrats qui aujourd'hui, notamment ceux qui posent le plus de problèmes sur l'exécution, évidemment, vont pouvoir bénéficier de cet effet particulier des smart contracts qui est de forcer l'exécution.
Depuis l'enregistrement de cet entretien, la loi française a été modifiée pour permettre l'utilisation de la blockchain dans l'enregistrement et la cession de certains titres financiers. En parallèle, les parlementaires français ont discuté fin janvier de l'opportunité d'employer la blockchain pour dématérialiser certains actes civils. Les signes et les avancées de ce type se multiplient à travers le monde. Pour beaucoup, ils montrent que le développement de cette technologie est inéluctable. Pour d'autres, il s'agit d'une bulle ou d'un fantasme entretenu par une technophilie excessive.
Déjà, je vais te dire qu'effectivement, il y a une possibilité de bulle qui est indéniable, dans la mesure où c'est un sujet sur lequel beaucoup de fantasmes s'accrochent aujourd'hui, de suppression des tiers de confiance et de transformation numérique, radicale, etc.
D'ubérisation d'Uber.
Voilà, on parle même d'ubérisation d'Uber, effectivement. Donc là, on part vraiment dans des délires d'expression un peu particulière. C'est une technologie disruptive qui apporte des nouveaux usages, tout comme l'a été Internet, tout comme l'a été... Voilà. Il y a eu une bulle Internet. Aujourd'hui, on on se sert d'Internet, tout le monde se sert d'Internet, mais il y a eu quand même un emballement, et on n'est pas à l'abri d'un emballement aussi trop tôt, avec une technologie qui n'est pas prête et qui ne sera pas capable de répondre aux attentes qui sont en train de se former aujourd'hui, qui sont peut-être un peu fortes.
Bulle ou pari avisé, seul l'avenir pourra répondre à cette question. Il n'empêche que les sceptiques aiment pointer du doigt les faiblesses et les dysfonctionnements liés à la technologie blockchain et au Bitcoin. Beaucoup signalent les limites en capacité de traitement de données. Bitcoin peut par exemple gérer 7 transactions par seconde, ce qui est loin de Visa qui peut en prendre plusieurs milliers en charge durant le même temps, ou PayPal même qui peut supporter 200 transactions par seconde. Bien entendu, c'est performance modeste rappelle que dans sa forme actuelle, Bitcoin ne peut devenir une monnaie populaire et universelle. L'autre critique concerne l'impact environnemental et le coût énergétique des blockchains publics. Il est reproché notamment au système Bitcoin de consommer autant d'électricité annuellement qu'un petit pays ou qu'une ville développée de 2 millions d'habitants. Quentin de Beauchesne est entrepreneur et fondateur du groupe de discussion CryptoFR. Il répond à ces critiques.
Ouais, alors déjà, en fait, c'est une erreur de penser qu'on a besoin d'énergie pour valider des transactions. On n'a pas besoin d'énergie pour valider des transactions sur Bitcoin. Il faut voir la blockchain comme une base de log, parce qu'en fait, on va écrire des informations. Donc, A a envoyé à B, et ce sera écrit et logué pour l'éternité. Valider une transaction, c'est relativement simple. On regarde une adresse, on regarde combien elle a de Bitcoin, et puis on va comparer à son historique. Si c'est possible, la transaction peut être validée et sera transmise de nouveau au réseau. Si c'est pas possible, elle sera invalidée et ce sera tout. En fait, la consommation d'énergie est là vraiment pour la sécurisation du réseau. Elle n'est pas du tout là pour la validation des transactions. C'est-à-dire qu'en fait, les livres de compte qui sont la blockchain, on va sécuriser leur intégrité. Et sécuriser l'intégrité ces livrets de compte, c'est justement l'objectif de ce qu'on va appeler la consommation d'énergie. Et la consommation d'énergie, en fait, c'est résoudre un algorithme de manière mondiale. C'est assez complexe au point de vue technique, mais il faut voir ça comme un loto. En fait, c'est une loterie où, si on met plus de puissance, on va pouvoir gagner des bitcoins. Et gagner des bitcoins, en fait, c'est créer un bloc de transactions. Et en fait, ça veut dire que les gens qui vont valider des blocs vont changer tout le temps. Et c'est justement l'objectif. En fait, l'objectif là-dedans, c'est d'avoir une sécurisation maximale dans la validation pour qu'on ait personne qui puisse valider ses propres blocs plusieurs fois. Il va changer une de ses transactions et il va la valider plusieurs fois. Comme ça, ce sera validé ad vitam dans la blockchain. Ça, c'est ce qu'on appelle une attaque 51%. C'est-à-dire qu'il faut avoir plus de 50% de la puissance du réseau pour réussir à attaquer la blockchain à ce niveau-là. Et c'est de 1 relativement impossible actuellement. Si on était Google et qu'on mettait tous ces serveurs pour faire la sécurisation, on n'arriverait pas à 1% de la puissance de calcul du réseau actuel. Oui, il y a une grosse dépense d'énergie, mais en fait, c'est surtout se dire que cette dépense d'énergie, cette puissance de calcul est tellement élevée que même des États ne peuvent pas attaquer Bitcoin actuellement. Et même si on attaquait Bitcoin de cette manière, en fait, on n'arriverait pas à grand-chose parce que le consensus du réseau peut décider de choisir la chaîne qu'il préfère. C'est-à-dire que c'est comme ce qui est arrivé sur la blockchain Ethereum. Si le consensus choisit une chaîne différente de celle de l'attaquant, l'attaquant se retrouvera sur sa propre chaîne où il ne pourra pas dépenser ses bitcoins parce que le réseau aura décidé que ses bitcoins n'étaient pas bons et on sera sur une autre chaîne. Donc dans tous les cas, ce genre d'attaque est relativement peu efficace. C'est-à-dire que même si on se donne les moyens, ce sera de toute façon pas rentable. Et il y a très peu de chances que ça réussisse.
Là, vous êtes dans la posture de la défense, enfin, parce que vous misez sur ça, c'est logique. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous inquiètent dans ces technologies, qui vous font dire, si on ne dépasse pas ça, si ça n'évolue pas, on ne va pas y arriver, ou ça va rester un vieux rêve?
C'est justement, en fait, ce qui est intéressant dans la blockchain publique. Au final, la blockchain publique, c'est la blockchain. C'est un peu ce qu'il faut retenir. C'est la gouvernance. Le fait justement de dire qu'il n'y a pas de gouvernance centrale. Et c'est aussi son point faible. Donc on voit actuellement sur Bitcoin, par exemple, que là, il y a un gros problème de gouvernance. Il y a plusieurs personnes qui essayent de tirer la couverture à eux, en gros. Et ça retarde l'évolution de cette crypto-monnaie. Oui. Donc, ce qu'il faut voir actuellement, c'est que, si on fait relativement simple, c'est que les blocs de Bitcoin sont limités en nombre de données. Donc, actuellement, on est limité à 1 mégabit. Je ne sais pas si les gens peuvent se représenter cette chose-là, mais c'est relativement faible. Et on a atteint cette limite. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de transactions sur le réseau en permanence pour que tous les blocs soient remplis. Et ça pose problème parce que si on veut avoir une transaction qui passe et qui soit validée par le réseau, il va falloir mettre de plus en plus d'argent pour que ceux qui sécurisent le réseau incluent notre transaction dans les blocs. Et donc ça fait un bon moment, ça doit faire quasiment 2 ans maintenant, qu'il y a un gros débat sur comment on augmente cette taille de blocs. Parce que voilà, c'est quelque chose dont le réseau a besoin pour ce qu'on appelle la scalabilité.
La mise à l'échelle.
La mise à l'échelle, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, il y a des visions différentes qui se posent. Il y a la vision qui est au final relativement simple de dire bah, on va augmenter cette limite.
Et on peut en fait, c'est pas un problème.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème de consensus. C'est-à-dire que si tout le monde choisit une version de l'algorithme où on n'est plus à 1 méga par bloc, mais à 2 mégas par bloc, bah, le réseau va de lui-même augmenter à 2 mégas. C'est-à-dire que c'est vraiment, faut vraiment voir ça comme on habite Torrent, on passe sur une nouvelle version, et dans cette nouvelle version, on a des choses en plus. Le problème de ça, c'est que bah, peut-être dans 6 mois, de nouveau, on sera limité, et il faudra de nouveau augmenter. Et en fait, c'est pas bon pour le réseau de faire ce genre de changement. Ça va contre la stabilité du réseau. Donc, de l'autre côté, en fait, on a d'autres personnes qui proposent un système qui est beaucoup plus complexe, qui s'appelle Segregated Witness, qui permet de mettre beaucoup plus de transactions dans un bloc, mais d'une manière différente. Donc, dans le cas de Segregated Witness, c'est-à-dire que dans une transaction, on a aussi la signature. C'est-à-dire que quand on fait une transaction, on va signer cette transaction électroniquement. Et cette signature représente une grosse part du poids de la transaction en données. Et donc, ce que eux veulent faire, c'est mettre cette partie-là en dehors du bloc. Donc c'est un système qui est beaucoup plus réfléchi que juste augmenter la taille de bloc. Mais ça pose problème. Et ça pose aussi un problème de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a ces gens-là s'appellent Bitcoin Core. C'est ceux qui gèrent depuis le début, on va dire, Bitcoin. Et de l'autre côté, on va avoir ceux qui sont plus pour étendre le Bitcoin à tout le monde, pour que ce soit un moyen de paiement de personnes juste pour acheter sa baguette ou ce genre de choses. Et eux veulent que la taille de bloc augmente énormément. Augmenter énormément la taille de bloc, ça peut paraître intéressant, parce qu'on se dit, bah, si je mets plus de limite, par exemple, dans un bloc, bah, je peux faire autant de transactions que je veux. Le problème, c'est que, comme on disait tout à l'heure, la blockchain est répliquée. Est stocké par plein de personnes partout dans le monde.
Toutes les informations
Alors certains peuvent avoir ce qu'on appelle des nœuds complets, donc avec toutes les informations, et d'autres peuvent avoir des nœuds légers, où en fait ils vont garder une certaine partie des informations, et récupérer le reste des informations de la part des nœuds complets. Et en fait, cette chose-là, ça veut dire que si on commence à stocker peut-être 10 mégas par bloc, ben ça veut dire qu'on va augmenter, on va stocker 10 fois plus de données. Et qu'aujourd'hui, alors qu'on a quelque chose comme 120 gigas pour la blockchain complète de Bitcoin, ce qui est plutôt léger pour 8 ans, plus de 8 années d'existence, bah demain on pourrait se retrouver avec 1 tera. Et si on se retrouve avec 1 tera, ça veut dire que plein de personnes ne seront plus capables de stocker la blockchain chez eux. Donc, si on se retrouve avec 10 tera, avec 100 tera, etc. Et en fait, ce problème-là, certains disent que c'est un frein à la décentralisation. C'est-à-dire qu'on va devoir centraliser le stockage des blockchains dans des unités qui sont capables de stocker autant de données. Et c'est quelque chose qui est relativement gênant. C'est-à-dire que pour un système décentralisé, si on commence à passer de 4000 ou 5000 nœuds à 100 nœuds, on est sur un système qui est beaucoup plus fragile. Il est beaucoup plus simple d'attaquer 100 nœuds que d'en attaquer 5000.
Et les autres blockchains et les autres monnaies, est-ce qu'elles ont résolu ce type de problème? Est-ce qu'elles ont fait des choix différents ou elles sont toutes sur le modèle 1 méga?
Non, en fait, C'était d'ailleurs, ça fait d'ailleurs partie des choses qui ont créé les premiers, ce qu'on appelle les premiers altcoins, donc des coins qui ont pris le code de Bitcoin et qui l'ont changé. Ils l'ont changé en augmentant la vitesse de transaction, en augmentant la taille de bloc, etc. C'est justement le principe, en fait. D'autres ont choisi des systèmes un peu plus complexes encore. Chez Ethereum, par exemple, c'est une blockchain qui n'a pas le code de Bitcoin. C'est-à-dire que il y a le même principe de blockchain, mais c'est un code et un fonctionnement différent. Et sur la taille de bloc, eux ont choisi de mettre une limite de base, sauf que cette limite peut être augmentée. C'est-à-dire que si on repart par exemple de 1 méga, si notre bloc de 1 méga est rempli à plus de 66%, le prochain bloc sera augmenté de 5%.
C'est dans le code.
Ça veut dire que si jamais on essaye de spammer, de mettre énormément de transactions, on sera limité par la taille de bloc. C'est-à-dire que si on a une augmentation continue du nombre de transactions, en fait, notre bloc va augmenter en même temps. Et si ça diminue, en fait, la taille de bloc va, elle, diminuer également. Donc c'est une taille de bloc qui est adaptative.
La première grosse difficulté, c'est que la technologie n'est pas terminée, tout simplement. Donc là, vraiment, au niveau purement techno, ça marche aujourd'hui, mais ça marche avec un nombre d'acteurs limité, avec un nombre de transactions limité et avec des cas d'usage simples. Voilà. Donc si la technologie doit se développer et les cas d'usage grandir et devoir de plus en plus d'utilisateurs, etc., il faut que le réseau évolue, ce qu'on appelle la mise à l'échelle scalability en anglais, c'est-à-dire permettre d'exécuter plus de transactions plus vite et avec une meilleure sécurité, etc. Donc là-dessus, il y a beaucoup de travaux de recherche fondamentale qui sont réalisés par des chercheurs, les concepteurs initiaux des blockchains qui existent aujourd'hui, mais aussi d'autres chercheurs. De plus en plus d'universités s'intéressent au sujet pour améliorer le réseau, en fait, la technologie, et en faire quelque chose d'utilisable plus facilement et de façon plus efficace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'accessibilité. Aujourd'hui, pour utiliser une blockchain, les outils sont quand même encore très complexes. Ils ont été conçus à l'origine pour des geeks, par des geeks, pour des geeks, quoi. Donc c'est encore très abstrait tout ça aujourd'hui, parce que c'est une technologie qui a... le Bitcoin, c'est 2009. Mais c'était très balbutiant à l'époque. Ethereum, qui est la blockchain un peu la plus avancée aujourd'hui, c'est 2015, donc ça fait 2 ans. C'est vraiment l'enfance, la petite enfance de la blockchain là aujourd'hui. Donc les gens, y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de développeurs, et ça bouge très vite. Mais on n'est quand même pas encore sur quelque chose d'aujourd'hui utilisable par monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, ça reste un produit très pour technophiles. Le monde de la finance intéresse énormément. Les cas d'usage vraiment courants, monsieur, madame, tout le monde, dans la vie de tous les jours, je les vois pas avant 5-10 ans.
En fait, il faut bien savoir pourquoi on fait ce choix. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Bitcoin ? Et pour moi, il est évident que l'intérêt majeur de Bitcoin et des technologies blockchain, c'est la résistance à la censure. Alors, je suis pas en train de nourrir un discours révolutionnaire, je suis juste en train d'expliquer que la substantifique moelle d'une crypto-monnaie telle que Bitcoin, c'est d'assurer le fait que des individus sur la planète puissent s'échanger des valeurs sans jamais avoir besoin d'un tiers de confiance et sans jamais avoir besoin de l'approbation d'un gouvernement, d'une banque centrale. C'est la liberté totale, finalement, de pouvoir effectuer des transactions financières sur une monnaie qui, en plus, n'est pas contrôlée par l'État. Quand on y réfléchit, cette résistance à la censure qui garantit une indépendance totale, eh bien, il est normal que derrière, il y ait un coût en énergie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir Bitcoin qui assure cette indépendance et cette résistance à la censure et en même temps ne pas avoir ce coût de l'énergie du mining, puisque finalement, la garantie de l'indépendance est basée sur, en fait, un coût électrique qui fait en sorte que si on veut attaquer le réseau, il faut mettre le même coût. Et c'est donc le principe de base. Et à partir du moment où on est d'accord, où on comprend de pourquoi il y a un intérêt majeur à cette technologie, eh bien on est capable d'avoir une roadmap et une vision long terme. Donc effectivement, Bitcoin ne peut pas scaler, c'est-à-dire que Bitcoin ne peut pas en fait avoir une croissance majeure et embarquer tous les milliards d'individus de la Terre, parce que là, il y a un nombre de transactions par seconde qui est limité. Mais encore une fois, ce n'est pas un outil, c'est pas PayPal 2.0, c'est pas Visa, c'est pas Mastercard, c'est un outil qui garantit une indépendance financière, c'est un edge sur l'économie globale. C'est-à-dire un edge, c'est-à-dire que lorsque l'économie va mal, lorsque on n'a plus confiance dans l'économie classique, lorsque il y a le Brexit, lorsque Trump est élu, le Bitcoin monte. C'est une valeur refuge.
C'était Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger. Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de répondre aux questions de l'atelier des médias sur la blockchain. Merci à Vanessa Rabessandratana de Ledger pour ses conseils avisés. Je suis conscient que c'est un drôle de pari de consacrer deux émissions à un sujet aussi ardu. Si vous avez pu les suivre, je suis sûr ou j'espère que vous aurez été intéressé par ce que nous raconte la chaîne de blocs, la blockchain de notre monde en mouvement. Je signale qu'il existe déjà des arnaques autour de la blockchain, donc méfiez-vous des offres alléchantes et des monnaies virtuelles venues de nulle part. L'atelier des médias a été signé cette semaine. Mathilde Saliou, Camille Deloche, Léo Caravagna, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Salut à toutes et à tous.
Grâce à la blockchain, on pourrait se réapproprier ce qui nous appartient et donc permettre à Internet et à ses moyens de communication extrêmement développés de continuer à se développer, à grandir sans nécessairement faire de nous des fournisseurs de données.
Sans nous écraser, quoi.
Sans nous écraser.